Nostalgie.
Nostalgie.
Merci déjà beaucoup d'être là pour Nostalgie. On va parler de cet album en deux volumes, du coup, Héritage.
Ouais.
Première question, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs pourquoi on va parler aujourd'hui d'Héritage 2 et pas de Héritage 1, comme le voudrait le...
C'est simplement parce que j'ai de l'éducation. J'ai été éduqué par des femmes, ma mère, ma tante, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, et qui m'ont toujours expliqué qu'il fallait bien se comporter avec les invités. Et quelqu'un qui va sortir sur un album en octobre plutôt qu'en mai sera peut-être quelqu'un qui sera déçu de pas sortir avant les autres. Donc j'ai privilégié cette idée-là. Donc en octobre, ça sera le volume 1, comme ça tout le monde est content. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est original, j'aime bien.
Bah oui, et puis en plus, peut-être que je ferai un volume 3. Et puis c'est aussi dans une espèce de... Comment dire, on peut aussi parler de George Lucas, évidemment, qui a commencé par le 4, 5, 6, La Guerre des Étoiles, et ça m'a marqué. Ça fait partie aussi de mon héritage. Quelqu'un qui n'aura pas assez de toute une vie pour réaliser toutes les idées qu'il a, ça, c'est aussi moi. Donc non, c'était histoire de faire parler, de rajouter une question à votre interview. C'est ce que je dis aussi, voilà. Et après le volume 2, il y aura volume 1, et après évidemment le volume 4.
Et l'idée de départ pour cet album, pour ce
Alors
projet,
l'idée de départ, en fait, c'est simplement suivre le fil de ma fan attitude, puisque je me définis en tant que fan depuis le début. Mariti Gilbert Carpentier, ça a commencé avec les émissions de télé, les chansons que j'ai découvert dans la télé, dans toutes ces émissions, numéro 1A, spécial, machin, enfin bref. Et puis Rennes avec la fan attitude avec Marc Itzad et puis tous ces groupes de rock qui m'ont fait découvrir la musique. Donc la bascule totale de la variété au rock. Et j'ai commencé à tirer le fil avec l'album Fan. Et puis il y a eu l'album avec Isabelle Adjani, un album de fan aussi, non seulement pour Isabelle mais de tous les invités qu'on a eus. Il y a eu l'archipel des séquelles avec toutes ces merveilleuses voix qui m'ont accompagné. Et donc, en fait, je tire cette espèce de fil de ma philosophie qui dit que je n'existe que grâce à l'autre et non pas à cause. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis un espèce de fou de musique. Et quand quelqu'un ne connaît pas une chanson, je lui dis, tu as beaucoup de chance de ne pas connaître cet album ou cette chanson parce que tu vas découvrir quelque chose de merveilleux. Donc moi, je suis un éternel fan, tout simplement. Et Héritage est simplement, encore une fois, la déclinaison de ma philosophie, toujours aller chercher chez l'autre quelque chose, toujours, comment dire, pour apprendre, parce que je suis curieux, et parce qu'aussi j'ai une application qui s'appelle Obispo All Access, où je me suis amusé à faire une anthologie de la chanson française, que je n'ai pas encore fini, qui est sur 1700 titres, que je reproduis, que je reprends, par artiste ou quelquefois des chansons isolées qui vont faire l'objet de compilations sur l'application. Et en faisant cette anthologie de la chanson française, puisque à cause de l'intelligence artificielle qui est utilisée de manière assez déplorable pour construire des chansons alors qu'elle est efficace pour la médecine et pour d'autres choses, moi je suis plus trop demandé pour écrire et composer des chansons, parce que je suis un humble compositeur. Donc je me suis mis à faire cette application où je suis libre de faire ce que je veux. Donc, je fais du jazz, je fais du flamenco et j'ai construit une anthologie de la chanson française sur 1700 titres qui va faire 60 albums. J'en suis à 40, il en reste 20 à faire. Et donc, je me suis plongé dans le répertoire d'artistes français que j'ai découvert entre donc ma naissance et 77-78, où là, j'ai basculé dans l'adolescence, dans la musique rock. Et toute cette période-là, je me suis aperçu que je ne l'avais jamais exploité. Et c'était quand même... cette période est quand même... bourré de points d'ancrage de ma vie. Alors, on peut parler des divorcés, de Michel Delpech, on peut parler de Michel, de Gérard Normand, de Dites-moi, de Michel Jonas, Je l'aime à mourir, de Francis Cabrel, et puis sans parler des chansons de Claude François, de Johnny Hallyday, que j'avais en poster dans ma chambre, ou même de Michel Polnareff. Et toute cette période en musique, je l'avais jamais vraiment exploitée. Et en tant que compositeur, je me suis amusé, grâce à cette anthologie de la chanson française, à chaque fois que j'en finissais une, ben je me suis amusé à essayer de m'imaginer comme un compositeur de ces artistes. Et j'ai été plus loin puisque j'ai fait écouter à ces artistes les albums que j'avais fait sur eux. Imaginez-vous un artiste d'aujourd'hui, Francis Cabrel, Julien Clerc, Michel Jonas, enfin bref, recevoir 20 chansons chantées par, pas par un inconnu, mais par quelqu'un qu'ils connaissent et qui a produit un album sur leur répertoire. Donc ça doit être un peu bizarrement troublant, mais ça doit faire plaisir. C'est d'abord pour les remercier, c'est aussi un travail que j'ai fait parce que j'avais envie de comprendre et m'investir aussi dans l'application pour proposer des choses à mes abonnés. Mais ça m'a amusé d'aller voilà, taquiner, me positionner juste en interprète sur un répertoire que j'aime de la chanson française et que aussi j'ai découvert. Parce qu'encore, quand on parle de Berger, je connais tout le répertoire, mais quand on va chercher du Lama, on va travailler sur du Beco, du Brel, du Brassens, on connaît pas forcément tout. Quand je dis tout, c'est à la radio, on passe les tubes.
Toutes les phases B.
Mais il y a les chansons d'album. Et souvent, les chansons d'album, pour un artiste, c'est des chansons aussi importantes, mais qui sont dans la deuxième catégorie, dans la deuxième couche, qu'on aime autant que les chansons qui sont sorties et qu'on aurait bien aimé qu'on écoute. Mais ces chansons sont vraiment magnifiques. Donc, j'ai découvert des chansons et par chance, j'ai découvert un répertoire incroyable. Donc, en faisant cette application, en refaisant ces chansons sur cette anthologie, en fait, j'ai redécouvert tout le répertoire parce que j'ai voulu tout écouter. Donc, je suis devenu spécialiste de la chanson française. Et j'ai mon diplôme de musicologie, mais de spécialiste en chanson française. J'étais déjà entre 77 et 85 pas mal au niveau du rock.
Ouais, ça devait être pas mal.
Mais là, j'ai voulu découvrir. Et j'ai découvert des merveilles. Et donc, je me suis amusé à essayer de faire comme si j'étais compositeur de ces artistes. Parce que j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Alors évidemment, j'ai rien compris. Mais il y a quand même des éléments de langage qui sont les sons, etc., les mots utilisés. Et donc, je me suis amusé. Donc ça, c'est vraiment une des clés de cet album et aussi l'utilisation du son organique uniquement. Du vrai son, et non pas travailler sur l'intelligence artificielle, toutes ces saloperies qui tout d'un coup, qui donnent l'illusion à des gens qui sont musiciens ou qui sont chanteurs. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur une période qui est de 66 à 77, où on a évolué dans la prise de son, avec les micros, les amplis, où on a évolué dans l'enregistrement, avec les consoles. Alors au début, c'était en direct, une piste, deux pistes, quatre pistes, huit pistes, 16 pistes. Et donc, on a assisté à toute cette évolution du son. Et c'est vrai que juste avant les synthés, l'apport des synthétiseurs, on a travaillé comme ça sur de l'organique avec des pianos, des Wurlitzer, des Rhodes, des guitares, 12 cordes, 6 cordes, 4 cordes, des basses, etc., des batteries. Et il y a eu un vrai travail de son très, très intéressant que moi, je n'avais jamais traité dans mes albums. Et là, je voulais vraiment qu'Héritage soit non seulement l'héritage et la transmission de ces artistes exceptionnels, mais aussi d'un son exceptionnel qui est reproduit quelquefois par des artistes différents, qui sont beaucoup plus roots. On peut parler de Lenny Kravitz, on peut parler je parle des artistes modernes, évidemment, ou de ceux qui font du rock et qui aiment bien travailler justement avec du pur. Mais tout ce son-là, à l'époque, enregistré, il n'y avait pas de synthé, il n'y avait rien d'autre que toi, ton groupe, ton instrument, démerde-toi. Et plus on était technicien, et plus on était un bon musicien, et plus le truc était bon. Et si en plus il y avait des bons compositeurs et des bons arrangeurs, comme l'apport de George Martin pour les Beatles, par exemple, ça créait des choses, on a appris à mettre les bandes à l'envers, des choses comme ça, mais on avait des putains de musiciens. Clapton, David Gilmour. Et puis, mais alors le truc, c'est qu'en France, alors évidemment, je parle pas de McCartney, qui est mon maître à penser de compositeur, mais en France, en fait, on avait aussi des super musiciens et des super arrangeurs. Et quand on écoute certains albums anglo-saxons et certains albums français, en fait, ils sont traités exactement de la même manière, enregistrés en direct. Comme par exemple, quand on écoute, je sais pas, les productions, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Allez, le premier album de Gérard Lenormand, par exemple, qu'on vous écoutez, c'est une perfection sonore. On a Jean-Claude Petit, on a des super musiciens. Vous écoutez Le Traitement, ou des albums de Gainsbourg à l'époque aussi, ou des premiers albums de Sardou, de Gilbert Bécaud. Vous voyez, on a un son incroyable. On n'a pas trop l'arrivée de la réverb des années 80 qui a un peu foutu le bordel dans les sonorités vocales, ce qui est un peu dommage, Alors on a découvert la réverb, tout d'un coup, allez, vas-y, la réverb, hop là, et on y va à fond. Et ça, c'était vraiment les années 80, années 90. Alors que les années 70, elle a été utilisée justement pour faire des effets, des trucs à l'envers. On avait le délai de 2 secondes de John Lennon, qui était vraiment exceptionnel, qu'on réutilise nous avec Allogéro. Je sais, on en parle souvent quand on parle de voix, on aime bien cet petit effet, beaucoup utilisé par Kravitz justement. Et donc, en fait, toute cette période-là, elle est une période très, très importante au niveau du son, du traitement des sons. Et c'est pour ça que les ingénieurs du son étaient vraiment très importants, parce que le micro, voilà. Le micro, si on prend le micro, il faut prendre la batterie au bon endroit. Si on le prend là, évidemment, ça ne va pas sonner pareil. Mais on peut le prendre aussi au-dessus. On peut faire comme Phil Spector, qui lui produisait, alors il faisait jouer 2 batteries en même temps, il mettait les 2 basses, enfin bon, il y a eu un tas d'expériences qui est arrivé avant les machines. Voilà. Les seules machines qu'ils avaient, c'était les consoles. On enregistre avec les micros et fallait vraiment, les ingénieurs du son étaient vraiment c'était vraiment les maîtres de l'endroit, les spécialistes. Et moi, je travaillais avec un mec comme ça, chez moi, qui, au fur et à mesure qu'on fait des albums, il a vraiment appris à faire des prises de son et nous, on fait que du vrai son. Alors, on se casse la gueule, on se trompe, on trouve des idées, et quelquefois, quand on a des maladresses, hop, attends, garde, ça fait un truc, là, c'est comme, je sais pas, pour fan, par exemple. Si j'existe, c'est d'être fan, ça, c'est une erreur, par exemple. Il a mal copié le cœur, et en fait, ça fait comme un délai. Il dit, ah non, c'est super, faut toujours se méfier des erreurs dans le studio, faut attendre. Et pas se précipiter pour corriger l'idée qu'on avait, mais réfléchir parce que peut-être qu'elle peut nous servir pour faire quelque chose d'original auquel le cerveau n'aurait pas pensé. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai voulu concevoir un album héritage à la manière des enregistrements de l'époque. On enregistre, prise 1, prise 2, prise 3. On fait un re-re pour un solo, on fait un re-re pour des voix, etc. On a fait les voix après, mais tout est en direct et tout le son de mon album, j'allais dire de notre album, puisque ce sont des musiciens qui ont joué, réalisé aussi avec Yuri Benaïs, Fred Nardin, Sébastien Chouard, Michel Aimé à la guitare, Abdelaziz Sati à la basse, et aux batteries, il y a Christophe Deschamps et Romain Saron. Tous ces artistes-là sont réalisateurs avec moi de l'album, parce que c'est eux qui ont joué. Et on a voulu que ce soit avec les éléments de langage de cette époque et de l'époque de ces grands artistes ou des artistes qui sont un peu héritiers, comme Gauvin Serres qui va chanter dans l'album, comme Thomas Dutronc, comme d'autres artistes qui seront dans le volume 1 aussi, et qui sont aussi des héritiers de cette période. Cette période-là nous a donné envie de faire de la musique. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'à cette époque, on a entendu, et ça nous a amené à avoir envie d'écouter et d'acheter nos premiers albums, et de faire, que ça devienne notre passion, et puis peut-être d'en faire notre métier si on a eu la chance. De trouver un public. Donc en gros voilà, donc en résumé, cet album c'est nostalgie d'un son particulier qui n'est pas reproduit, qui n'est pas fake, qui est un son qui est fait avec un chemin, avec une expérience et non pas pour appuyer sur le bouton de Suno et fabriquer une chanson d'une manière assez débile et penser que tout d'un coup on est chanteur ou comme on est musicien. C'est un album vérité avec des artistes vrais et beaucoup d'auteurs-compositeurs. Il n'y a aucun interprète, mais ils sont venus en tant qu'interprètes. Et c'est ça le truc qui est assez drôle, c'est parce que moi qui n'avais plus de demandes pour composer des chansons pour d'autres artistes, là tout d'un coup, j'ai fabriqué peut-être inconsciemment une espèce de chemin entre eux et moi, en leur montrant que j'aimais la chanson française, que j'aimais leur répertoire, en leur faisant écouter à chaque fois, leur envoyant les chansons. Et j'ai fait une espèce d'ouverture, comme un petit endroit comme ça de passage entre nous pour leur montrer et pour leur dire merci. Merci d'avoir été là. Merci pour le partage. Merci d'être encore là. Et aussi pour dire dans cet album, merci de pas oublier. Et c'est la force de votre radio, que sans eux, on n'est rien et que c'est très important de toujours continuer à garder Brel, Ferré, Brassens, Aznavour et Cabrel, Julien Clerc, Renaud, tout ça, parce que ils ont été des points d'ancrage de notre vie, sans le savoir. Moi, Delpech, je l'ai divorcé, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a à parler de ma vie, lui? Il parle de ma vie, c'est horrible, c'est triste. Et c'est comme ça qu'une chanson démarre, en fait. C'est comme ça qu'on démarre avec un artiste. Et c'est comme ça qu'on décrète qu'une chanson est bonne ou pas bonne. C'est quand elle correspond ou pas à votre vie, en fait. C'est drôle. Et donc, j'ai suivi Michel toute ma vie. Tout ce qu'il faisait, j'écoutais parce que il m'a percé le cœur, quoi. Au moment des divorcés, mes parents ont divorcé exactement la même année. Et c'est pareil pour les autres. Francis, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment, je suis passé à Francis au moment de, à hors saison, il m'a eu, mais, et pourtant c'est un peu après, mais il m'a vraiment bouleversé. Mais je le connais depuis, je l'aime à mourir, quoi. On écoutait sans arrêt ça. On chantait ça, quoi. Dans les colonies de vacances. Michel Jonas, dites-moi, c'est le 45 tours, il était posé. Il était posé, je me souviens, devant la petite pile de disques. Serge Lama, encore plus loin, l'album rouge, avec les glycines. Je me souviens, j'entendais ça de ma chambre, moi qui écoutais Claude François et quand j'étais petit, quoi. J'étais fan de Claude François, on écoutait Johnny, on écoutait, Delpech, j'étais obligé. Et puis, j'avais le poster de Paul Naref, mais pas son cul parce que j'étais trop petit, mais j'avais le chapeau qui était devant son sexe. C'était l'autre poster pudique, qu'il avait fait, la version pudique. Bon, enfin voilà, en gros, en résumé, cet album, c'est ça, c'est de la nostalgie, mais justement, montrer qu'en fait, c'est peut-être de la nostalgie d'une époque où on faisait des vrais sons, où on faisait des vrais albums. Et je sais qu'il y a plein de musiciens qui sont comme ça aujourd'hui, attention. J'en vois, j'en rencontre. J'ai fait des petits bœufs dans des loges et tout, avec des vrais musiciens qui veulent revenir à la musique. Bravo, merci à eux. Apprenez la guitare, apprenez le piano, apprenez un instrument. Arrêtez d'appuyer sur cette saloperie d'intelligence artificielle qui va vous mener à aucun plaisir et vous allez défocus rapidement pour passer à autre chose. Après, vous allez faire quoi? Fabriquer une maison comme ça? Ou fabriquer une voiture en deux secondes? On s'en fout, quoi. L'important dans la musique, c'est un truc quand même émotionnel. C'est ce que ça procure. C'est ce que ça dit. Tout ce chemin vous donne quelque chose. C'est important dans votre construction, je trouve, dans votre vie. Tous les mots, toutes ces choses-là, la musique, c'est important.
Les textes, en fait, comme c'est quand même justement un travail beaucoup d'orfèvre, quoi, de se mettre à chaque fois dans l'univers de chaque chanteur que vous avez sollicité, artiste, on va dire. Les textes, ça s'est fait comment, le choix?
Alors, j'ai fait 50 chansons pour l'album. C'est vrai qu'à la base, j'étais pas forcément parti, on était parti sur le son. Parce que j'ai des musiciens, mais galactiques, comme on les appelle. J'ai des musiciens qui sont branchés là-dessus, quoi. Y a pas de truc faux avec eux, ça joue. Et moi, je joue même pas sur l'album, hein. C'est eux qui jouent, je suis bien incapable de faire ce qu'ils font. Moi, je suis le cerveau. Pas pour dénigrer, mais en tout cas, je réfléchis, le directeur artistique, et je fais les chansons. On était parti sur du son au début. Et puis après, quand j'ai commencé à proposer les chansons, c'est vrai que il y avait des correspondances, parce que je disais, on pourrait faire ça. Tiens, regarde le son dans l'album de Julien Clerc. Tiens, regarde le son dans l'album de Jonas. Tiens, regarde. Et puis, en fait, mais si, la chanson de Jonas, tu sais, le mur que j'avais fait quand on faisait l'album de Jonas, le mur. Et puis là, je me dis, mais c'est pas mal, en fait, l'idée. Et puis, les idées se sont mélangées. Et tout d'un coup, je me suis mis à vouloir composer une chanson pour Julien Clerc. On pourrait faire ça comme ça. Il a pas fait ça. C'est parti comme ça, en fait. Et après, on pense au texte, donc on choisit, et je pense que c'est les textes qui m'intéressent pour un artiste. Je dis, lui, ça serait plus ça, ça. Et j'en fais plusieurs, et après, à la fin, je sais pas, j'en fais peut-être 3-4, et puis après, il y en a deux qui ressortent. Les deux, je les enregistre, et puis je les envoie à Julien, qu'est-ce que t'en penses? Mais en sachant que la 1, pour moi, c'était Nénuphar. Donc j'envoie Nénuphar. Et il me dit, super, envoie-moi une autre. Puis il m'envoie la deuxième, et la deuxième, voilà. Il me dit, finalement, je garde Nénuphar. Et à chaque fois, j'avais bon. C'est un travail où t'as besoin de, comment dire, d'abord, c'est de la chance. D'abord, c'est du travail, c'est vrai, mais c'est de l'envie. Mais il faut vraiment connaître le répertoire pour pouvoir, il faut aimer un artiste. Pour pouvoir connaître son répertoire, pour pouvoir écouter les chansons, dernière chanson de l'album. Celui-là qui a pas marché. Non, je vais l'écouter aussi. Vas-y, fais-la moi. Je veux l'écouter. Et après, tu fais. Et puis après, voilà. Et puis, s'ils aiment, tant mieux, quoi. Être compositeur. Voilà. Moi aussi, j'ai essayé de composer des chansons pour l'album de Céline Dion, hein. Moi, la mienne, elle me l'a jetée, hein. Donc,
ça marche pas à tous les coups.
Non, mais c'est juste, ça marche pas. Oui, parce que quelquefois, c'est exactement pas du tout ce que la personne veut faire, quoi. Et c'est pour Céline Dion, c'était le cas. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. On peut être complètement à côté de la plaque dans les éléments de langage des mots et du verbe. La musique, bon, normalement, on devrait s'en sortir, mais le verbe, c'est difficile. Alors, on a des auteurs pour ça. On a Lionel Florence, et Pierre-Dominique Burgot, principalement. Et donc, j'ai choisi, c'est du travail. C'est 5 minutes pour faire la mélodie, mais 60 ans pour y penser. Donc c'est ça le truc, en fait.
Ils avaient chacun plusieurs choix et ils en
ont... Non.
C'était plus ou moins déjà déterminé avant.
Pour moi, ouais, okay. C'était déterminé.
Est-ce que tu es d'accord pour qu'on prenne chanson par chanson dans cet album? On commence avec donc l'archipel des séquelles avec Zazie. Peut-être un mot déjà sur ta relation avec elle.
Zazie, on s'est rencontrés à Abbesse parce que sa directrice artistique voulait qu'elle connaisse d'autres compositeurs. Et puis on s'est rencontrés et ça s'est évidemment très très mal passé. On était comme deux joueurs de tennis, de pays différents. Hein. Et puis finalement, c'était juste un exercice de style de chacun. Et en fait, on s'est bien aimé tout de suite. Et on a commencé à faire des chansons. Et puis on a fait plein de chansons ensemble. Et puis...
Vous avez deux univers qui se ressemblent quand même. Enfin, peut-être.
Alors moi, j'étais... Elle a été plus branchée très 70. Moi, j'étais plus, j'étais plus rock 80, plus rock, quoi. Et elle était rock 70. Enfin, on était. Donc, elle était plus Gabriel et Kate Bush, et moi, j'étais plus Police ou tu vois, ou Marquise, un truc comme ça. Même si on était d'accord sur les Beatles. Hein. Donc, on a fait plein de chansons. On en a fait d'autres encore, hein, mais qui sont pas sorties. Et celle-là, en fait, elle restait. J'ai toujours bien aimé parce que c'était. Donc on avait nos petits fights habituels, les meilleurs ennemis, et je voulais lui montrer que je pouvais aussi écrire des mots, parce que j'ai toujours été un peu feignant, puisque j'ai toujours eu des auteurs formidables. Donc quand tu reçois des beaux textes, t'y vas et puis tu passes pas une semaine ou deux semaines ou un mois à écrire un texte, parce que la musique c'est plus facile pour moi. Mais je voulais quand même lui montrer et j'avais écrit ce texte sur l'archipel et séquelles, le refrain. Un archipel de séquelles.
Très romantique. Pour ceux qui l'ont pas encore.
Et puis j'y tiens, regarde. Et donc elle a bien aimé et elle m'a fait les couplets. Et après, il y avait la musique, etc. Et j'avais cette chanson qui existait en maquette. Et au moment de faire l'album avec les filles, je lui dis écoute, regarde, on a cette chanson qui nous reste, tu veux bien la faire. Et puis elle est venue. On l'a fait, mais c'était dans un univers vraiment très intimiste. L'album L'archipel des séquelles en lui-même, c'est vraiment un truc féminin, extrêmement féminin. Avec du silence et tout, vraiment la beauté, quoi, la femme, quoi. C'est-à-dire un album vraiment de femme, quoi. Vraiment quelque chose. Comme je le perçois, c'est-à-dire beaucoup de silence, beaucoup de zénitude, beaucoup plus d'intelligence que le masculin qui lui va rentrer un peu dedans. Alors que, pour moi, c'est mon avis de l'album un peu féminin. C'est-à-dire, il y a, comme je l'ai fait. Et en fait, quand j'ai commencé Héritage, j'avais pas envie de demander à Zazie puisque je savais qu'elle faisait son album. J'ai dit, quand même, je vais le refaire, mais à la façon 70 comme t'aimes bien. Avec, et à la fin, tu vas voir, je vais essayer de faire un truc, on va essayer de faire un solo à la Gilmour, machin. Parce que j'étais tombé sur le solo de Prince quand il a refait Wild My Guitar, le solo qui dure je sais pas combien de temps devant Harrison, devant tous les mecs, là. Et puis il s'amuse et il m'a montré qu'il est, c'est un génie, c'était un génie de la guitare. Et donc là, le solo de l'archipel des séquelles à la fin, il est interminable. C'est Sébastien Chouard qui joue. C'est vraiment, vraiment fantastique. Donc, j'ai refait une version de l'archipel des séquelles avec Zazie pour que Zazie soit aussi dans l'album parce que je peux pas faire Héritage sans Zazie.
Michel Delpech, on en a parlé. Alors, plus globalement, comment tu as travaillé avec les personnes qui sont parties et qui sont quand même là sur cet album?
Daniel Lévy, j'avais les bandes puisque j'avais produit cet album-là où il y avait cette chanson. Ça avait pas du tout marché. Et j'ai toujours eu le sentiment que cette chanson était géniale. Voilà. Et c'est chiant. Parce que quand tu fais des chansons, que t'as le sentiment qu'elles sont bien. Moi, en général, quand je sens qu'une chanson, ça va, le soir, je l'écoute 20 fois ou 30 fois avant de m'endormir. Même si je m'endors, j'arrive pas à m'endormir, je me le remets un coup pour m'endormir. Parce que, ça, c'est les chansons que je pense qu'il faut que je propose en général. Et celle-là, elle en faisait partie, elle m'a fait pleurer cette chanson. Au début, je l'avais proposée à Daniel. Bon, on avait reficelé un peu par rapport à son album. Et là, j'avais les bandes et j'ai demandé à Universal, est-ce que je peux l'utiliser? Et j'ai demandé aussi à sa femme, Laure, avec qui il n'est pas divorcé. Bon, enfin, y a... bref. Et elle était contente et tout, etc. J'ai envoyé. Et puis, on a refait une version qui me semblait plus que je pensais de la chanson, mais pour héritage, pour donner un petit truc un peu soul dans l'album. Même si je ne suis pas un chanteur soul. Même
non, mais si c'est je vrai pas, qu'elle est groovy. Hein,
même si je ne suis pas chanteur, d'ailleurs. Même si je chante, c'est la différence entre un
posture,
chanteur.
Quoi.
Non, mais ça dit, non, mais c'est important, parce que ça, j'en parle souvent, et je suis obligé d'en parler, parce que il y a les chanteurs, il y a les interprètes, ceux qui veulent bien chanter nos chansons. Et qu'il faut qu'ils chantent nos chansons sur scène. Florent, il doit chanter mes chansons sur scène, c'est important pour moi. Et pour lui aussi. Il y a les chanteurs et il y a les compositeurs. Et on peut être les deux, comme Francis, comme... Mais Francis n'est peut-être pas considéré comme un chanteur. Un chanteur, chanteur. Alors Francis chante monstrueusement bien. Mais il y a les chanteurs, quoi. Tu vois, c'est comme les chasseurs et puis il y a les chasseurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le sketch des inconnus. Et donc, Daniel, en fait, c'était vraiment un chanteur. Un chanteur à voix. Et donc, c'était pas facile. Et je voulais faire un truc un peu soul. Avec un vrai chanteur. Moi qui ne suis qu'un compositeur qui chante. C'est comme ça que je me définis et j'adore ça. Voilà. Moi, je suis au service des chanteurs. Je suis un compositeur. Si on veut des chansons, je peux composer, voilà, et je suis heureux. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai fait 25 duos. Il y en a encore un enregistré. Il reste Santa à enregistrer le 29. Mais il y a 25 duos, tu vois, et j'ai tout composé, c'est génial.
Une question sur celui avec Renaud, quand même.
Ah oui.
Comment tu l'as convaincu, on a presque envie de...
Moi, je suis très pote avec son assistant, ce qui n'a rien à voir avec le fait qu'il ait accepté, mais on s'aime bien avec Renaud depuis quelques années. Il vient au Cap Ferret, on se voit, il vient à la maison, on mange et tout. Enfin bon, puis un jour j'avais chanté le Mistral gagnant devant lui pour un concert hommage aux pompiers, pour le et je pense que bon, je pense qu'il avait bien aimé que je fasse ça. Et puis je pensais pas qu'il allait accepter et puis s'il a accepté, donc il a fallu que je repense la chanson parce que je voulais pas qu'il chante. Parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et je voulais Renaud en compteur. Voilà. Et Renaud qui parle, ben on reconnaît Renaud. Puisque de toute façon, sa technique de voix bien avant, à un moment donné, quand on connaissait Renaud bien avec tous ses tubes, c'est qu'il y avait quand même un brin de talk-over. Le talk-over, c'est un peu parler, tu vois. J'étais tranquille, j'étais peinard, au pontoir, j'étais entré dans le bar. Tu vois, il y a la petite note, mais c'est quand même assez, un peu parler aussi. Donc la voix de Renaud est extrêmement reconnaissable. Je dis, bah, écoute, voilà ce qu'on va faire. On va parler, on va faire du talk-over comme Jacques Elias. Et donc, il a dit d'accord. Et puis, je l'ai dirigé et on a fait cette chanson qui était en fait chantée sur le refrain aussi. Mais là, je me suis arrangé pour justement m'adapter au fait que lui parle. Et on a fait un beau clip sur un bateau, hein, sur un deux-bas de 25 mètres. Et ça, c'est vraiment un moment exceptionnel. On est tous les deux sur un 25 mètres sur le bassin d'Arcachon, presque à l'océan. C'est un truc de fou, quoi. Merci Renaud. On a vu le documentaire. Voilà, c'est assez fou, quoi. Comme finalement, c'est des choses que j'écoutais, que j'entendais, mais j'avais l'impression que c'était important pour les gens. Et puis, moi, quand j'étais petit, bon, on comprenait pas trop les paroles et tout. Et puis avec le temps, on s'aperçoit. Voilà, je réécoute tout. J'ai fait aussi un album de Renaud qui est pas encore sorti sur l'application, mais puis c'est super dur à faire parce qu'il a tellement une voix particulière. Tu vois, il faut s'adapter. Bon là, j'ai fait les concerts comme tu sais pour ses 50 ans, les trois soirs où j'ai fait plusieurs chansons. Et tu as vu comme c'était bien. Renaud était très content de ma version de C'est quand qu'on va où. Musique de Julien Clerc.
Et est-ce que sur l'enregistrement même des chansons avec les chanteurs qui se sont déplacés pour venir les enregistrer avec toi, ça s'est toujours passé de la même façon ou suivant les personnalités, le travail a été différent?
Ça a toujours été, on arrive, je fais écouter les chansons des autres. Mm-hmm. Tu veux savoir dans quel plat tu es tombé? Alors je faisais écouter deux, trois chansons. Et puis après, super. Et donc, on est arrivé sur notre chanson qu'ils avaient écoutée et que je leur avais envoyée sur WhatsApp. Et après, on se dispatchait. De temps en temps, j'allais dans la cabine avec eux pour montrer des trucs, des placements. On faisait la découpe. Et puis après, j'allais de l'autre côté et on chantait ensemble. Et puis, j'avais déjà tout chanté. Mais en fait, j'ai tout rechanté avec eux pour m'adapter un peu à la voix aussi, parce qu'il fallait quand même harmoniser les timbres de voix. Puisque moi, bon, le timbre, c'est pas ma caractéristique première. Et quand tu chantes avec Eddie Mitchell, quand tu chantes avec Renaud, c'est vrai que bon, il faut que tu recailles un peu ton timbre, ce qui est possible évidemment, mais bon. Donc, on chantait ensemble et puis après, on faisait la compile de voix et puis on choisissait. Non, ça a toujours été assez bizarre d'ailleurs de voir des auteurs-compositeurs venir être interprètes juste. J'avais l'impression d'être au moment de sa raison d'être. Tout d'un coup, ils sont venus faire juste leur voix. Voilà, c'était plus qu'une phrase.
Oui, là, c'est vraiment un vrai partage. On va parler de celui avec Gaëtan Roussel aussi, elle est super la chanson.
Oui, bah, Gaëtan était venu pour l'album d'Adjani, donc on avait sympathisé un soir sur une terrasse à Nice pour une fête de la musique. On avait parlé tout de suite des Talking Heads et du rock des années 80 dont il est fan, etc. Donc lui, il est un petit peu resté là-dessus par rapport à sa musique. Il a bossé avec Bachong et tout. Moi, j'ai fait un grand écart un peu plus violent puisque je suis allé plus dans la variété, etc. Voilà. Donc on se connaissait pas. On a échangé et puis il a vu que j'étais un amoureux de la musique et j'ai vu aussi qu'il s'y connaissait aussi beaucoup. Donc c'est toujours marrant de parler avec des spécialistes de musique, des curieux, des gens qui connaissent le poids d'un son de guitare, d'un son de basse, d'un son de caisse claire, etc. Voilà, c'est toujours c'est très agréable. On a l'impression de pas être seul. C'est pas toujours le cas dans certains interviews. Tout d'un coup, les gens connaissent pas quoi, ils savent pas. On me parle musique et quelquefois, je me souviens au début, j'étais un peu en forme de dénigrement, tu sais, tu chantes plus que tout au monde et tombé pour elle, tu lup tup tup. Donc, c'est-à-dire que le gars, il pense que tu connais rien à la musique. Donc, j'ai baigné dans le rock, j'ai baigné dans Marie-Tigibert Carpentier, et puis après, j'ai baigné dans la variété, et puis j'en ai même fait, et puis après, j'ai fait d'autres choses, mais bon. Donc, tout d'un coup, c'est vrai que, au début, t'es un peu dénigré, c'est un peu chiant. Quand tu commences, tu te dis, mais pourquoi il me dit ça? C'est parce que j'ai chanté tulup tup tup. Bon, ok, oui, parce que j'ai fait Sous le soleil. Donc, tu penses que parce que j'ai fait Sous le soleil, mais mon gars, c'est beaucoup plus difficile de faire une chanson populaire et qui devient populaire, à mon sens, que de faire un truc avec des accords mal joués, un peu faux, avec une voix nasillarde, en faisant un exercice de style sur une espèce de pseudo-poésie de sixième de transition, en pensant qu'on est le nouveau Baudelaire, quoi, tu vois. Donc ça, bon, je veux pas citer des gens, hein, mais bon, parce que maintenant j'ai que des amis, donc tout va bien. Hein. On va pas saloper le truc alors que j'arrive en bout de course, je suis dans mon barreau d'honneur. Tu vois ce que je veux dire? Non, on va pas se faire des ennemis. Non, ça va, tout va bien. Bon, il y en a quand même un ou deux, bon, bref.
Et c'est à l'occasion de. J'aurais bien aimé savoir. À l'occasion d'Héritage, est-ce qu'il y en a des artistes que tu rencontrais physiquement pour la première fois? Chico, tu les connaissais?
Oui, bien sûr. Bah, à chaque fois avec Chico et Gypsy, on fait toujours des bœufs. Et quand je leur dis que je suis espagnol aussi, moi j'ai mon passeport espagnol, je suis de double nationalité. On s'est dit, à chaque fois, j'y vais, moi, je chante avec eux, Pour le clip avec Appelle-moi Johnny, on était chez Chico, on a fait un bœuf après avec les, il y avait un public, je suis allé avec les copains faire des chansons, je connaissais même pas les accords, eux non plus d'ailleurs, mais bon, on a changé quand même chanté, c'était génial. Non, moi le flamenco c'est important pour moi. Quand j'étais petit, j'allais en Espagne, et puis je me souviens d'un jour, on avait été voir un concert de flamenco avec une sublime danseuse qui avec sa robe rouge à pois blancs, un espèce de cliché, mais c'était comme ça. Il faisait du flamenco traditionnel. C'est pour ça que je fais des albums de flamenco traditionnel dans mon application.
Alors, donc, Julien Clerc chante. Lévy, on en a parlé. Gaëtan, Axel Bauer, vous connaissez.
Ah ben Axel Bauer. Alors que... Axel Bauer, évidemment, puisque Axel Bauer, quand je suis arrivé à Paris, le premier concert que j'ai vu, c'est de son concert à lui, et j'ai rencontré Pierre Jaconelli. Mais de loin. Après, je l'ai vu. Ah, c'est toi qui jouais avec Axel Bauer. Mais tu sais qu'Axel, il sait pas que je suis fan de lui. Parce que c'est Axel qui m'a amené, sans le savoir, à mélanger la chanson et le rock. Il y avait Étienne, il y avait Marc Itzade et Marc Seberg. Ah, putain, c'est possible de chanter en français. Étienne Dao. Et Axel Bauer, à l'époque, je dis, ah putain, c'est vachement bien et tout. J'ai adoré son premier album. Quand j'ai vu pour la première fois, je lui ai balancé toutes les chansons que j'étais vraiment, que je connaissais bien, les chansons de son premier album. Il dit, mais putain, tu connais ça? J'en ai vendu 12. Ah oui, mais peut-être. Mais bon, moi, j'étais fan, quoi. J'étais fan. Et j'ai d'ailleurs fait un album cover de toutes ses chansons dans mon application avec une super version du Tunnel. Le Tunnel d'Axel Bauer est une chanson merveilleuse. Et mais que j'ai refait, et je pense que ma version est mieux que la sienne. Et je lui ai dit, putain, mais chante-la, tu sais bien que ma version, je l'ai réussi. Bon, enfin bref, Axel Bauer, ça a été, vraiment, ça a été le pont, quoi, avec Dao et Mark Seberg, pour passer du rock à la chanson, en fait. C'est vraiment eux, quoi. Donc Axel, oui, moult fois, je lui ai déclaré mon affection, mon attachement, et même sur un truc pourri, c'est pour lui, mais pas pour moi. J'adorais un single qui n'a jamais marché de lui. Alors, je parle pas de Fantasme, parce que Fantasme, ça fait un bide énorme après Cargo de Nuit. J'adore cette chanson Fantasme, c'est super bien, il faut écouter cette chanson. C'est vraiment un mélange de boucles et tout, il y a du Prince, il y a du truc, c'est vraiment super bien. Et notre chanson, parce qu'à un moment donné, ça devait moins marcher, il a fait un truc qui s'appelait L'Arc-en-Ciel. Une putain de chanson de variété exceptionnelle. Et je lui dis, mais j'adore ta chanson. Et je l'ai refait beaucoup plus rock et tout. Et ça a presque un peu chatouillé l'esprit de la refaire. L'Arc-en-Ciel, viens sur mon arc-en-ciel. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à vouloir faire ça? Et moi, je l'aimais par contre. J'adorais. Bah, j'ai tout aimé d'Axel. Donc... à force de lui dire, à force de le voir et de lui montrer. Ah ben, tiens, mais j'ai d'ailleurs fini l'autre jour, avant l'été, avant qu'il sorte L'Enfant Prodigue, j'étais dans son studio, il m'a fait écouter. On a même un peu travaillé, ça m'a fait plaisir sur la chanson. Et sans trahir de secret, c'est vrai que les petits chœurs juste avant le refrain, je dois dire que j'y suis un peu pour quelque chose, oh, 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 ça là. Et ça me fait bien plaisir parce que j'ai contribué à l'œuvre d'Axel Bauer qui était, ben, un peu mon idole des chanteurs français d'adolescents, quoi.
Alors, Michel Jonas, c'est peut-être un peu plus étonnant comme rencontre, en tout cas. Pas étonnant dans le sens musical, Maman. Mais humainement, vous vous connaissiez déjà?
Alors, on s'était croisés, mais jamais aussi longtemps. Quand je lui ai envoyé l'album que j'ai fait de lui avec mes copains, il y avait Jean-Yves D'Angelo et Manu Katché qui sont aussi venus jouer gratuitement sur l'album. Et après, je lui ai envoyé. Alors, j'étais un peu... voilà, on a filé les numéros de téléphone et tout. Effectivement, je crois que je ne le connaissais pas. Et il a été touché. Et j'étais invité à chanter avec lui sur scène. Tout d'un coup, on me voyait en train de faire Lucille sur scène. Alors, il me fait « Lucille, c'est moi, Lucille, c'est moi, Lucille. » Et dans la chanson à la fin, je dis « Mais non, Lucille, c'est moi. Lucille, c'est moi. Mais non, Lucille, c'est moi, Lucille. » Et on a fait un espèce de bœuf comme ça devant le public. Tout d'un coup, il dit « Oh, Lucie, Lucie, Lucie. » Je lui dis, mais non, Lucie, c'est moi, c'est pas marqué dans les livres. Lucie. Et on a chanté comme ça et c'était super drôle. Ça n'a pas été enregistré, mais c'était un moment très, très étonnant. Voilà. Donc, on s'est bien marré sur ce dossier. Et après, quand j'ai fait donc cet album, j'ai composé pour l'album Le Beau qui pleut, Le Mur. Et j'étais en train de faire l'album, donc Jonas, sur l'application. Le Mur, c'est vraiment, je lui dis d'ailleurs, excuse-moi, hein. Il me dit, oui, quand même, t'as été quand même un peu loin. Oui, parce qu'on peut, quelquefois, on peut parler de plagiat et tout, mais il n'y a pas plagiat.
C'est sur la similitude, il a dû être surpris. Parce que
mais oui, parce que tout d'un coup, j'ai fait une chanson un peu comme lui, et il a été surpris que ce soit aussi proche de lui, mais ce n'était pas lui, mais ça le faisait bizarre, quoi. Mais bon, j'avais tellement écouté ses chansons, et comme je disais, voilà, dites-moi, c'était la chanson de ma mère, les vacances au bord de la mer aussi. C'était les 45 tours qu'il y avait chez moi, quoi, quand on était sur les coussins, parce qu'on n'avait pas l'argent pour avoir un canapé. Voilà, il y avait une chaîne stéréo, il y avait les petits disques, et il y avait Jonas, il y avait les Beatles, il y avait Rulio, il y avait les Beatles qui venaient de sortir le double rouge, il y avait un album d'Elvis, il y avait les Rubettes. Alors les Rubettes,
et Julien
Sugar Coulou. Baby Love, Foodie Oodie Dam Dam, Jukebox Jive, Tonight. Tonight won't be like any night. Tonight a star in the sky will be shining for me and my baby tonight. Tu connais les Rubettes. Et en même temps, il y avait les Beatles. Je dis, mais c'est bizarre. On dirait que c'est pareil. Un peu, c'est vrai que c'était un peu pareil, quoi. Et c'est hallucinant parce que c'était, en fait, c'est hyper bien, les Rubettes. c'est vraiment, ça aurait été les Beatles qui avaient fait ces chansons, c'était pareil, quoi. On aurait dit un espèce de, ouais, un peu de pastiche, quoi, mais bon. Mais Jukebox Jive, bon, c'est vrai que c'est la version variété de Back in USSR et Sugar Baby Love, je sais pas ce que c'est, ça peut être, mais bon, une chanson de Lennon.
Ça pourrait être deux, ouais, d'une manière un peu retravaillée.
Oui, 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 oui. Non, mais c'est Rubette, c'est la version variété de Beatles.
Et Julien Clerc, il me semble que ça, c'est quelqu'un que tu voulais vraiment rencontrer, qui tu voulais vraiment
travailler. Ouais, Julien Clerc, si je pouvais réaliser un album avec lui, avec mes copains, c'est un de mes rêves, en fait. J'ai jamais osé lui dire, hein, donc je ne lui dis pas. Mais c'est vrai que travailler avec Julien Clerc, mais surtout aussi être là, pas travailler dans la composition, parce que pour moi, c'est un géant de la mélodie qui m'a beaucoup appris quand j'ai commencé à faire de la chanson. D'ailleurs, je lui disais à chaque fois, je lui dis, tu sais, quand j'ai composé Rosa, donc la chanson, ma chanson Rosa, sur Rosa Parks, pour moi, c'est une chanson pour Julien Clerc. Et j'ai pensé à Julien Clerc quand j'ai fait cette chanson. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Enfin, je veux dire, moi, j'imaginais Julien à la chanter, quoi. Et donc, quand j'ai composé, c'était facile. En fait, c'est beaucoup plus facile quand on pense à quelqu'un, quand on compose, en tout cas pour moi, que quand on dit, comme la maison disque avant, je me souviens à une époque, je lui dis, bon, mais là, il faut que tu fasses un single. Ah, je dis, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, il faut que tu fasses du Obispo. Mais t'es con, toi, qu'est-ce que c'est Obispo? Tu veux dire Obispo, c'est-à-dire que les 500 artistes que j'aime, qui font ce que je suis aujourd'hui, lequel? Tu vois, c'est ça un peu, c'est assez bizarre dans l'esprit d'une maison disque, ils ont l'impression que ce que tu es, c'est une entité. Alors que cette entité, c'est juste le mash-up de, tu vois, de centaines de panneaux comme t'as avec le nom d'un artiste, quoi. Et c'est vrai que Julien Clerc, pour y revenir, pour moi, c'est vraiment, il m'a beaucoup appris. Sans le savoir, évidemment. Je l'ai fait chier à un moment donné quand j'allais à ses concerts. Oui, parce qu'on s'est rencontrés au Reste du Cœur. Ah, voilà. Donc on a chanté au Reste du Cœur ensemble et tout, voilà. Mais à chaque fois, je l'emmerdais parce que je venais au concert et je voulais qu'il chante Si j'étais elle. Qui est une chanson qui m'a fait pleurer à chaque fois. Et donc l'autre jour au grand, c'est l'émission, La Boîte à Secrets. Il y avait Julien Clerc invité et en fait on m'a demandé de venir chanter une chanson. Tu veux faire quoi? Bah, t'es fou, Si j'étais elle. Et donc je fais Si j'étais elle, il me voit et tout, et puis il y a un faux démarrage, il me dit ah bon tu m'as vu etc. Puis j'ai commencé. J'étais super ému parce que cette chanson m'a toujours fait pleurer. Et j'ai toujours emmerdé pour qu'il la chante sur scène. À chaque fois je me dis mais pourquoi tu l'as pas chanté? Ah oui non. Et une fois il l'a fait, oh là là, c'était magnifique. J'adore ce titre. Mais évidemment, je connais tous les autres titres, hein. Je connais tout le répertoire par cœur de Julien Clerc. Voilà, les débuts avec Rodagil, Patineur, Ivanovitch, tous ces trucs-là. Et la chanson avec Marceline Desbordes-Valmore, c'est d'ailleurs aussi un peu grâce à lui que j'ai découvert Marceline, mais c'est mon père qui avait ça dans un bouquin de poésie. Il avait noté tous les textes de Marceline Desbordes-Valmore, donc j'ai fait l'album. Mais c'est vrai que Julien avait fait Les Séparés. Chef-d'œuvre de mélodie, associé à un chef-d'œuvre de parole, c'est voilà, c'est et Julien a souvent eu ça quoi, c'est et là c'était un peu oui, j'ai eu peur mais il faut bien se lancer. Comme j'avais fait Rosa, je me dis bon, je peux en faire une autre peut-être aussi bien, donc j'ai cherché le texte et je trouvais pas mal l'idée de Nénuphar, tu vois, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc donc ils voulaient flotter, j'ai dit ça, et j'ai tout de suite, quand j'ai vu le texte, je me suis dit ça, je pense à Julien. Donc, ils voulaient flirter, donc ils voulaient flotter, je me suis dit, et j'entendais sa voix, quoi, tu vois, c'est-à-dire que j'ai entendu sa voix avant même de faire la chanson, je savais qu'il y avait le truc qui allait monter. Donc, quand j'ai composé, tout d'un coup, j'ai voulu, flirter, tu vois, je l'avais, quoi. Je l'avais, mais il a fallu que je trouve les accords. C'est compliqué, quelquefois, t'as la chanson, mais t'as pas les accords. Tu sais comment tu vas faire, mais il faut choper les bons renversements. Et donc, j'ai envoyé, il a voulu en écouter une autre, mais voilà, mais c'est celle-là qu'il a pris. Et... moi, je crois que c'est une des plus belles ballades pour moi de l'album.
Ouais, elle lui va très bien. Elle lui va très, très bien.
Alors, j'espère bien parce que j'ai composé pour lui.
C'était le but. Et Francis Cabrel, il paraît qu'il aurait voulu des couplets en plus.
Oui, Francis, il est arrivé, dis donc, oh, le texte. Je dis, mais quoi, t'aimes pas le texte? Mais non, il aurait fallu des couplets en plus. Francis, et son intelligence et son humour exceptionnel, et son 18e degré. Si c'est un mec tellement brillant aussi, tellement intelligent, tellement humble aussi, avec beaucoup de pudeur, et et venir juste interpréter, j'aurais pas cru, mais je l'ai bien dragué en faisant son album, en lui envoyant 20 chansons de son répertoire, avec des chansons que j'aurais peut-être pas cru que j'aurais pris, comme Les gens absents, ou Les bougies fondues. Les bougies, c'est fantastique. Les bougies, c'est un chef-d'œuvre de son dernier album. Ouais, tu écoutes la chanson sur la poésie, c'est fantastique, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est vraiment un chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Et donc il est venu. Et alors pour Francis, alors je me suis dit un truc. Vraiment, je me suis dit, si je fais une balade avec Francis, les radios, ils sont tellement chiants qu'ils vont dire, ah oui, mais bon, mais là, c'est une balade. Alors tu sais, nous, on est plutôt sur la chanson positive et up tempo. Je promets que j'avais ça dans la tête. Et bah oui, mais tu sais, là, c'est une balade. Non, ils veulent, tu sais, la radio, c'est pas ça. Ils veulent un truc up tempo, un peu joyeux, un peu soleil, tu vois. Et putain, on peut pas être libre quand on fait des chansons. Et comme j'en avais 25 à faire, je me dis, bon, Julien, je veux faire la balade. Mais Francis, il faut qu'on aille chercher le up tempo, un peu solaire, avec un texte un peu, évidemment, voilà.
Concerné.
Un peu un texte, oui. Concerné et poétique.
Et poétique, c'est vrai.
Et donc, je suis parti là-dessus, quoi. Et alors, au début, la chanson a été très 80. La bascule comme ça que j'ai fait sur le refrain, c'était un peu 80. Et ça faisait pas trop l'unanimité dans le studio, l'unanimité. Et attendez, hein, mettez les guitares, les 12 cordes, etc. On va mettre un petit solo à la George Harrison avec un espèce de tierce aussi, machin. Ça, là, je l'ai chanté, le solo, hein. C'est pas lui qui il a joué, mais il a joué ce que je lui ai chanté. J'entendais tout, quoi, tu vois, ça me venait. Et je te promets que cette chanson, j'ai pensé à la radio. Non pas pour y passer, mais parce qu'avec Francis Cabrel, si avec Francis, tu passes pas à la radio, c'est chiant, quoi, quand même. Serge, il a investi parce qu'il chante. Serge est un des plus grands de la chanson française. Il a du mal avec le fait qu'il soit pas forcément. Mais moi, je le dis et je le répète, Serge est un des plus grands auteurs de la chanson française. C'est exceptionnel. Pas là où il devrait peut-être être pour lui, mais si, quand même. Et par chance, il est encore là, il est vivant. Et on a chanté Bordeaux, la chanson que j'avais composée pour son album de duo, on l'a refait dans le volume 1, qui sortira en octobre. Et c'est vrai que quand je suis rentré avec Philippe Pascal aussi sur scène, je me sentais acteur. Voilà un petit peu le sentiment que j'avais quand ils sont venus en studio.
Et comment ça se passe? Nous, on passe celle avec Benabar en ce moment. C'est peut-être pas le même rapport dans cette
conversation. Bah avec Bruno, c'est pas pareil. On a bu des coups ensemble, on a rigolé. La première fois qu'il a parlé de moi, il m'a défoncé. Après, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, moi, bon, il va falloir qu'on se voit. Et donc, après, on a sympathisé, on est devenus les meilleurs potes du monde. Voilà. Et puis, je suis content parce que ça passe à la radio. Et puis, je suis content parce que sa tournée marche bien. Voilà. Si la chanson a donné un petit influx, c'est super, quoi. Moi, je suis ravi parce que c'est un super auteur, quoi. Il raconte des histoires. T'es là, tu t'assois, t'as que des histoires. Tu vois, c'est des histoires, c'est pas du son de Suno, quoi. Et les musiciens sont top, en plus. Très, très top. Moi, j'ai partagé avec lui l'autre jour à l'Olympia, j'ai passé un super moment. Non, faut aller voir Bruno en concert. C'est vraiment un conteur, quoi. C'est que des histoires, que des histoires. Moi, j'aimerais bien avoir ça, mais moi, je fais que c'est que des chansons d'amour. À force, les gens, ils s'endorment, tu vois.
Oh non, ça marche toujours, les chansons d'amour. Un petit mot sur Icare aussi, que moi j'ai découvert.
Ah, Icare est fantastique. Icare est fantastique. Icare, il était venu sur un séminaire à moi. Et puis, il n'était pas resté longtemps. Et puis, c'était pas une bonne période pour lui. Et puis, il a fait un bouquin que je conseille à tout le monde, qui est magnifique, sur sa résilience et le retour de là où il est venu, où il est allé très très bas. Et il le dit fort bien dans son bouquin. Et je l'ai vu, on était à Carcassonne, et je lui ai dit, tu veux pas écouter des chansons, j'aimerais te proposer des choses. Il a écouté Viens, et il a adoré le texte. Mais je lui ai demandé pourquoi, et enfin je lui ai dit que c'était moi, il m'a dit ça, j'en étais sûr, parce que il trouvait qu'il y avait des maladresses d'écriture, c'était amusant. Et c'est ce qu'il a aimé, parce qu'il dit, c'est vraiment toi en fait, Viens. Une chanson sur l'amitié. Et on s'appelle très souvent maintenant, c'est un des rares avec lesquels, on va dire, c'est celui avec lesquels j'ai le plus d'appels téléphoniques. On s'appelle, on s'aime bien. J'aime bien ce mec, c'est un poète, c'est un mec qui vient de loin, c'est un mec qui a la foi, qui est pour le dialogue, qui est pour la bienveillance, qui est pour qui est contre le communautarisme et qui pour que les gens voilà soient ensemble. Et c'est assez compliqué. Il est très croyant. Et c'est, je pense que c'est ce qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a la foi. Et je trouve que la chanson finalement est bien nous va bien. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il a choisi celle-ci.
Et comment tu fais aujourd'hui, avec tout ce que tu as réalisé par le passé, la distinction entre une collaboration et un duo? Est-ce que ça résonne pareil pour toi?
Ah non, c'est pas une collaboration, c'est différent. Un duo, c'est... Par exemple, Tu trouveras, c'est une collaboration. J'ai fait Alexandrie, Alexandra, dans le refrain.
Apparemment qu'elle n'arrivait pas à chanter.
Alexandra, ce truc qui me vient de Claude François, j'en suis sûr, hein, je te vous le dis. Hein.
On va l'écouter.
Il y a des choses qui viennent. Ouais, mais il y a des choses qui viennent de Mark Itzad, de Bauhaus ou de Joy Division. Mais il y a des choses. Le riff de Comment s'aimer un single, ça me vient de Simon Gallup. Les accords de Savoir aimer, ça vient de The Forest. Tu vois. Mais il y a d'autres trucs qui viennent de la variété. Tu vois, parce que plus de la variété, tu trouves. Oui, Alexandra.
Et du coup, cette distinction, alors, collaboration.
Ah ben là, j'ai collaboré parce que je voulais montrer. Bon, j'ai fait des chœurs comme ça qu'il faut que tu fasses. Ah ben non, ils sont bien, garde-les. Bon, ok. Et à la fin, je dis, tu vois, tu pourrais te faire des réponses. Ah, des mimours. Nanana. Et puis non, ah ben non, c'est bien, regarde, laisse-le. Ok, très bien. Me voilà embarqué pour un duo alors que c'était une collaboration. Tu vois, mais des duos, c'est des duos. L'album L'Archipel et Séquelles, ce sont des duos. La chanson avec You Sundur, So Many Men, que vous ne passez pas, parce que vous ne voulez pas la passer, parce que vous n'aimez pas la qualité ici. Vous voulez de la nostalgie, mais prenez de la vraie nostalgie. Des années 2000, pourquoi les tubes des années 80? Ou alors prenez les anglais, parce qu'en France, les années 80, c'était compliqué. Les années 80, franchement, c'est...
Compliqué, c'est le mot.
Alors, c'est vachement drôle, en fait. Ce qui est vachement drôle, c'est que, pour moi, 80, c'est Message in a Bottle. C'est Joe Jackson. C'est l'album des Stray Cats. C'est l'album de Talking Heads. C'est, Axel Bauer. Tu vois, c'est Étienne. Si, évidemment, Cure. Et c'est drôle parce que, quelquefois, je fais des émissions. Bon, alors, toi, on sait que t'es enfant des années 80. Ouais, ok, allez. Ou Blind Test ou une connerie. Il me passe que de la merde. Que de la merde du top 50, tu sais, des trucs. Je dis, mais vous êtes tarés ou quoi? C'est pas ça, les années 80, pour moi. Moi, les années 80, c'est Forest, c'est Joe Jackson, machin, c'est Clash, London Calling. C'est tout. Joy Division, Love with Tears Apart Again. Tu vois, c'est ça, moi, les années 80. Ah bon, mais non, mais pas du tout, j'aime pas du tout ces trucs-là. Les années 80, il y a rien de pire que le top 50, sauf Axel Bauer. Voilà. Je parle des tubes du top 50, les tubes de machin, ça c'était un super tube. Cargo de nuit. Comment voulez-vous composer un truc comme ça si vous n'êtes pas un génie? C'est impossible. Le mec, Axel, c'est un talent fou. Je sais pas si les gens le voient, parce que lui, il est un peu tributaire des radios, il veut passer aussi un peu à la radio, tout ça. C'est un mec sur scène, un guitariste hors pair, c'est un mec formidable. Mais c'est un génie. Il connaît la musique, il est exceptionnel. Et Cargo de nuit, allez m'expliquer comment on peut faire une chanson comme ça. Mais vous avez vu la construction? C'est hallucinant, quoi. On ne comprend rien du tout, quoi. Et c'est ça la magie de ce tube qui est hallucinant. Donc, je garde Axel. Et j'en garde d'autres aussi, mais ça c'est normal parce que c'est mon ami c'est David. David Gattegno, David Marwani de Est-ce que tu viens pour les vacances? Parce que lui, il est venu à mes séminaires.
Il a la dérogation.
Oui, parce qu'il a pas pu travailler pendant 11 ans parce que sur sa tête c'était marqué David et Jonathan. Et en fait, le mec était un super compositeur et il est venu me voir, vous la connaissez l'histoire. Il vient me voir et dit tu fais des séminaires, écoute... Moi, ça fait 11 ans, j'ai pas passé un titre, ils veulent pas de moi parce que, je lui dis, regarde ta tête, c'est normal qu'ils veulent pas de toi, c'est, on va voir un peu la carte, quoi, tu vois. Alors, moi, je l'ai pas non plus, mais en ce moment, c'est vrai que je fais des chansons qui passent à la radio. Je vais réfléchir. Donc, j'ai fait un séminaire quasiment presque autour de lui. Enfin, avec lui, il était un des principaux leaders aussi. Et je lui ai dit, écoute, David, voilà ce qu'on va faire contre ce métier fantastique, vraiment. C'est une espèce d'ouverture sur les compositeurs et tout. Non, tu m'étonnes. il y a un compositeur qui tourne et puis après, au bout de 3 ans, il y en a un autre. C'est tout ce qui se passe. C'est horrible. Voilà ce qu'on va faire. Fais-moi écouter tes chansons, Mélodie. Super mélodiste. Aimé jusqu'à l'impossible.
D'accord. Tina Arena.
Il a fait pour Nolwenn, il a fait pour Natacha Saint-Pierre, il a fait plein de chansons. Pour Céline Dion aussi, il a fait plein de titres.
Je le découvre.
Mais bien sûr. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que bon, j'adore David, c'est un mec vraiment extraordinaire. Donc, je lui dis, écoute, tu veux pas être nostalgie avec les études des années 80, si tu veux passer un peu la barre, hein, fais-moi écouter. Hein. Ah, c'est super, putain, t'es un super mélodiste. Viens avec nous, on va faire les séminaires. Et je lui dis, bon, tu t'appelles comment? Marouani. Ça commence mal parce que, bon, David et Jonathan, David Marouani, bon. Ta mère, elle s'appelle comment? Gattegno. Très bien, tu vas t'appeler Gattegno. Bon, alors, c'est au premier séminaire, on a fait 80 chansons, j'en ai maquetté 50. Je lui dis, je vais chanter toutes tes chansons et je vais faire croire que c'est moi qui les ai composées. Oui, elle est bien cette chanson, et qui a composé? Ben, c'est moi. Ah bon, ah, super, bon, bah, on l'apprend. En 11 ans, il n'a placé aucune chanson et en 3 semaines, il en a placé 11. Comme quoi, il n'y a pas un problème avec le délit de faciès, avec les a priori, avec tout ça. Évidemment, il y en a un. Moi, je sais, je suis victime de ça parce que je n'ai pas la carte. Mais là, je vais l'avoir cette année, il paraît.
Enfin.
Ouais, j'ai la carte.
Il serait temps.
Ouais, je vais avoir la carte cette année, c'est vachement bien. Non, mais bon, en fait, les années 80, c'est vrai que c'est pour moi, c'est la musique anglo-saxonne que Marc Seberg, qu'Étienne et que Axel Bauer, évidemment, il y a des trucs, tu vas me citer des choses, mais c'est des trucs qui ressemblent plutôt à quelque chose d'un peu plus rock, quoi.
Je voulais te demander aussi, toi qui as souvent été au service d'eux, est-ce que...
Je suis pas souvent, pardon. Je suis tout le temps au service d'eux.
Ok.
Non, mais c'est la vérité.
Oui.
C'est une vraie nuance.
Oui,
je suis un compositeur. Je suis un compositeur qui chante. Et à un moment donné, on m'a pris pour un chanteur parce que ça a fonctionné, mais je suis pas un chanteur. Je suis un mec qui aime la musique et je chante. Mais j'ai trop de respect pour les vrais chanteurs. Comme Johnny, Daniel, Florent, Patrick Fiori, ça c'est des chanteurs Garou, tu vois, c'est des vrais chanteurs à voix, quoi, tu vois, ils chantent bien, quoi. Là, je peux pas faire le quart de ce qu'ils font. C'est vraiment un chanteur. Donc je préfère me positionner, moi, laissez-moi, je suis compositeur, je suis derrière. Foutez-moi la paix.
Et est-ce que tu n'as jamais voulu changer de rôle ou c'était toi qui sollicitais quelqu'un pour un texte ou pour une musique?
C'est-à-dire? J'ai pas compris.
Toi, tu as fourni beaucoup aux autres, enfin, collaboré, duo, etc. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans la position de celui qui sollicite à quelqu'un un texte ou une musique?
J'ai jamais rien demandé à personne. On m'a toujours sollicité, en fait. Moi, j'ai jamais prié, quoi que ce soit. C'est juste pour cet album et pour l'archipel des séquelles où j'ai appelé les filles. J'ai appelé les copines, quoi, tu vois. Et là, j'ai demandé à tous ces artistes, mais... On m'a toujours demandé de faire des choses, de composer, là. Et moi, j'ai jamais demandé. En plus, je vais te dire un truc qui est particulier, c'est que je n'ai jamais, à part une fois, jamais choisi une chanson pour passer à la radio. Jamais. J'ai jamais dit, bon, allez, on va pousser ça là, on va mettre ça là. Jamais. Une fois seulement. Voilà. Je vais me demander laquelle, mais bon.
Bah si, bien sûr. Laquelle a été poussée?
Elle n'a pas forcément marché.
Non, mais j'ai envie de savoir carrément.
Pas besoin de regrets.
Ah,
t'as vu, c'était avant, juste avant ce qu'on voit à Les Rimbauds.
Ah oui, d'accord.
Et c'était l'album où il y avait l'importance c'est d'aimer,
si,
machin.
Oui, oui.
C'était compliqué. Et puis, ils ont voulu sortir un truc. Et depuis le début, ça a été. Ils sont sortis Soledad, il ne fallait pas sortir Soledad.
Bah, si, allez.
Mais il fallait sortir l'importance c'est d'aimer. Après, machin. Après, ils ont sorti Tu pars amour. J'ai dit, on était dans un bourbier, je dis, attendez, sortez pas besoin de regrets. Ça, c'est une vraie chanson. C'est l'histoire d'une aveugle qui venait à mes concerts. Elle était devant moi. Je suis descendu un jour la voir. Et à chaque fois que je la voyais, je descendais pour lui toucher la main, pour dire, je t'ai vu, je suis là, etc. Elle me dit, ça va. Elle me dit, tu sais, Pascal, j'ai pas besoin de regrets. Elle a terminé. J'ai fait la chanson et à chaque fois, je lui dédiais. Elle était là. Et je lui dis, la chanson, elle savait que c'était sa chanson. Je t'en parle, c'est un peu émouvant, mais c'est la vérité. Et donc, je leur ai dit, non, sortez des chansons qui sont des chansons de vérité. Cherchez pas à faire des exercices de style où tout d'un coup, on invente un langage pour... Non. Et les chansons vraies, c'est vrai que c'est totalement particulier. Quand c'est vrai, j'ai l'impression que ça marche beaucoup plus, quoi. Malheureusement, parce que je me coltine à 61 ans encore avec Tomber pour elle, tu lui tup tup, quoi.
Jusqu'au bout. Et voilà. Ce qu'on peut faire pour
comme
chacun...
si j'avais pas fait des meilleures chansons après.
Ah, mais est-ce que tu penses peut-être la rançon de la gloire, ça, je sais pas.
Alors, ça, j'ai rien à payer déjà, je paye tout, mais je vois pas pourquoi je paierais un truc.
Pour les grands artistes, c'est souvent le cas.
Non, mais le problème, c'est que moi, comme je suis pas Charles Aznavour ou Francis Cabrel ou Julien Clerc, moi, la période où j'ai cartonné, c'est sur des chansons que quand tu vieillis, c'est moins bien, quoi, tu vois. Tu lup-tup-tup, tu compliques tout, tu vois ce que je veux dire, c'est plus compliqué. Et toute cette période, ben non, mais moi, j'ai l'impression de m'être un peu amélioré. C'est pour ça que, pour Héritage, je me suis dit, bon, on va essayer de bosser dans ce barreau d'honneur, essayer de faire des chansons, éventuellement, comme il y a des grands artistes, déjà, essayons d'être au niveau de ces grands artistes, j'espère que je l'ai été, mais aussi peut-être des chansons qui peuvent rester, qui sait, on ne sait jamais. Mais voilà, donc j'ai fait le maximum pour ça.
Est-ce que dernière chose pour chaque des artistes du volume 2, tu peux donner, parler aux auditeurs de ta chanson 2 préférée?
Oui.
Zazie.
Encore heureux. Je pense qu'encore heureux, c'est plus belle. Je lui ai dit, même encore l'autre jour. J'ai hésité avec Home Sweet Home, mais encore heureux, c'est la musique et tout, le texte est vraiment magnifique. Chacun son truc.
Michel Delpech.
Michel Delpech, ma chanson préférée, je pense que c'est... je pense que c'est celle que j'ai gardée, hein, c'est J'étais un ange.
Elle est très belle, ouais. Philippe Pascal,
Alors Philippe Pascal, ma chanson préférée de Philippe Pascal, je pense que c'est Silent World, de l'album Marquitza, de l'album Rue de Siam.
Chico the Gypsies.
Oh bah Chico, c'est de Bamboléo, non. Fantastique, génial, éternel.
Ouais. Daniel Lévy, j'imagine. C'est ça.
Daniel Lévy, ma chanson préférée, Daniel, je pense que c'est L'envie d'aimer. Pardon, mais bon, personne ne l'égalera et personne ne pourra chanter, même si notre camarade Benjamin Bocconi a chanté merveilleusement, vraiment, il a super bien chanté, évidemment. Et d'autres peuvent la chanter. Je pense à Patrick Ossifieri, qui l'a chanté sur scène avec moi un soir. Ils sont des chanteurs extraordinaires. Je suis incapable de faire cette chanson. Au début du couplet, je peux jamais le faire. Hein, c'est le public. C'est pas un jeu, c'est parce que je sais pas la faire.
Après, il y a Gaëtan Roussel.
Gaëtan Roussel, je dirais La Simplicité. J'adore cette chanson, j'adore ce texte.
Axel Bauer, est-ce que ce serait pas l'arc-en-ciel du
Alors, Axel Bauer, la chanson que je préfère d'Axel, honnêtement, maintenant, c'est Le Tunnel. Parce que je l'ai découverte en faisant... avec Sébastien Chouard, la nouvelle version. J'adore cette chanson. Écoutez Le Tunnel. Mais il faut que tu t'abonnes à mon application.
Michel Jonas.
Ça, c'est compliqué. Ouah. Dites-moi.
Julien Clerc.
Julien Clerc, c'est compliqué. Entre Si j'étais elle, Les Séparés, mon cœur balance, mais je dirais... je dirais Les Séparés quand même.
Renaud.
C'est quand qu'on va où?
Icare.
Icare, à l'envers, à l'endroit, quoi, tu vois, celle-là. C'est pas le titre, mais à l'envers, à l'endroit, et je voyais le monde, à l'endroit, celle-là, elle est magnifique. J'adore cette chanson.
Et Francis, ça va être difficile aussi.
Francis? Ah, c'est compliqué, Francis. Francis, c'est la merde aussi. C'est la merde comme Julien, il y a trop de chansons, parce que là, j'ai dit ces deux-là, mais Francis, je m'arrête sur Hors Saison. C'est le silence qui se remarque le plus.
Ouais, ça démarre très fort. Comment tu arrives, toi, à te renouveler? Là, le concept, il est hyper original. Donc, c'est quand même...
Pourquoi c'est original? De faire des duos, c'est pas très original.
Non, mais je veux dire de se couler comme ça dans l'univers de chacun et tout. Moi, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Mais sinon, pour ce qui est plus peut-être de tes albums à toi solo, comment tu arrives, justement, parler des premiers tubes, à toujours retrouver de l'inspiration, à te renouveler?
Il est dans cet album Héritage, c'est-à-dire qu'en fait, sans les autres, il n'y a pas d'inspiration. Je me souviens quand j'ai fait Savoir Aimer, c'était très compliqué parce que j'ai les chansons de Florent Pagny. Bon, j'aime pas grand-chose, en fait, il faut te dire, d'avant. J'aimais bien Si tu veux m'essayer, j'aimais bien Tue-moi, tu vois, j'avais deux chansons que j'aimais bien, mais sinon, j'étais pas très très fan. Et je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Et ma méthode a toujours été de penser à un autre artiste quand j'ai travaillé pour un artiste. Et pour Savoir Aimer, je me dis, je vais faire une chanson comme Michel Berger pour Florent. Et donc j'ai essayé de faire un petit balancé de tête comme ça pour le refrain, avec un espèce de rythmique comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je me suis dit, fais une chanson Michel Berger. En plus, ça sera bien pour lui, il évitera de gueuler. Voilà. D'ailleurs, à la fin de la chanson, quand on a fait S'en aller, tu sais, la toute fin, je lui ai dit, on a deux solutions. Ou tu fais S'en aller. Ça, on connaît de toi, mais on peut faire S'en aller, tout simplement, tu vois. Et on a choisi cette version. Et c'est ce que je voulais, en fait. Moi, ce que je voulais, c'est quelque chose qui soit beaucoup plus tendre pour lui, comme les chansons de Michel Berger. Donc, ce que je veux te dire, c'est que à chaque fois que je compose sur quelqu'un, sauf quand j'ai composé pour ces artistes-là, je pense à quelqu'un d'autre. Et pour moi, je fais la même chose, en fait. Parce que je sais pas ce que c'est qu'Obispo, quoi. Obispo, c'est un million de titres. Tu vois, ce que, à un moment donné, comment tu veux faire? Il y a des moments où il dit, bon, alors, dans les radios, alors donne-nous tes 10 chansons préférées tous les deux. Mais t'es con, toi, ou quoi? Mes 10 chansons préférées, comment tu veux que je fasse? Ou tes 20. On m'a demandé un jour tes 20 albums préférés. Mais je suis incapable de choisir, en fait. Donc, ce qui est bien avec les plateformes, c'est que tu fais des playlists. McCartney, par exemple, j'ai fait une playlist McCartney sans les Beatles. J'ai 144 titres. Qu'est-ce que tu veux que je choisisse, un album ou une chanson de Paul? C'est impossible. Et comme tu vois, là, tu me fais choisir des chansons, mais c'est vraiment compliqué. Donc en fait, moi, je suis le mélange de tout ça. Et quand je compose, je me dis, c'est pour ça que je donne toujours des stylistiques dans les albums, tu vois, des styles. C'est pour ça que on s'est dit, allez, 66, 77. Héritage, organique, musique, sans synthé, tu vois. Donc tout d'un coup, tu as des éléments de langage. Et donc quand tu composes, tu penses comme dans On vient, quand on fait l'hommage à Hotel California, tu vois. Comme dans, tu vois, d'autres chansons, tu vois, où tu fais un petit solo à la Gilmour, à la Harrison, tu vois, des petits trucs comme ça. Et donc en composant, tu te mets, tu réécoutes les chansons de cette époque et tu te dis, ah ouais, c'est bien quand ils faisaient ça, on va faire un truc dans ce genre. Tout simplement, parce que sinon... Sinon, si t'as pas de concept, aller comme ça et oui, bah t'as un texte, mais de toute façon, ça sera toujours en fonction de la musique que t'écoutes au moment où tu composes, tu vois. Si t'écoutes des années 80, ça va être ça. Si t'écoutes Paul, ça sera Paul. Si t'écoutes Harrison, ça sera Harrison. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Jonas Berger, c'est pas pareil. Cabrel, Julien Clerc, ça n'a rien à voir. C'est pas la même façon d'aborder le truc, quoi. Et c'est la richesse de la chanson française. Et cet album a été fait aussi parce que là, moi, j'essaye de faire la transmission, mais eux, ils m'ont transmis quelque chose. Donc, c'est le sujet de l'album, transmission. Mais il faut que ça perdure. C'est tout le concept de votre radio, la nostalgie.
Est-ce que tu as un projet encore à venir? J'en suis sûre que oui.
Oui.
De la scène, peut-être aussi?
Non.
De préparation, non?
Non, non, je suis un peu blessé. La scène, c'est compliqué. On verra, mais un projet à venir, héritage 4, et héritage 7 peut-être, mais sans rire.
Ça a bien l'air parti pour.
Non. En fait, j'ai décidé d'arrêter un petit peu après ces deux albums et de me consacrer un peu à la peinture.
Ta deuxième passion, on en dit juste un mot, on a un tout petit mot.
Oui, oui. Tu sais, ma deuxième passion, j'aime beaucoup les livres aussi. Parce que je lis beaucoup, j'écris aussi, j'essaie d'écrire une autobiographie, c'est compliqué parce que c'est tellement chiant les autobiographies. Mais après 60 ans, je me dis bon, allez, c'est à mon tour d'être un gars et peut-être que j'ai des trucs à raconter, mais bon, une autobiographie avant 30 ans, c'est compliqué.
Mais la peinture, quand même, ça a l'air d'être beaucoup de ton temps aussi, de ce que j'ai
dit. Ça prend beaucoup de temps, la peinture. Hein. Tu commences le matin, tu finis le soir, la toile en général. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne thérapie, quoi. Ça aide pas mal pour passer le temps qu'on a plus. Mais là, j'ai un peu moins de temps, là. Tu vois, j'ai 61 balais. Donc, il va falloir que j'ai des priorités sur les choix à faire. Mais sur l'appli, j'ai pas mal de possibilités d'héritage 3 et 4 avec les reprises que j'ai fait. Puisque j'ai quand même fait 1700 titres. On n'a pas tout à fait fini. Non, mais je pense qu'il y a des compilations. On peut en faire beaucoup. à 10 titres pas compilation, ça veut dire qu'on peut en faire 170. Bon, voilà. Allô Spotify? Oui. Ah, c'est trop. Pardon, excusez-moi. Mais pourtant, vous avez fait 40% de. Vous avez fait 40% d'IA. On n'a pas le droit de mettre des vrais titres à nous. Donc. Ah bon? Alors, bon, au revoir. Ça serait bien quand même de mettre des vrais titres, même si c'est repris uniquement par moi. Non, mais bon, je sais pas, honnêtement. Okay. Mais honnêtement, c'est vraiment, j'avais vraiment. Là, j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai enchaîné les albums. Je pense qu'il y aura sans doute une espèce de compilation que la maison disque va vouloir distribuer. Et puis, sans doute compilation. On peut faire un héritage de chansons d'amour, de la chanson française ou d'autres chansons, tu vois. J'ai déjà toutes les listes et tout. Il y a tellement de choses à faire. Mais je l'ai fait sur mon application. J'ai déjà chanté Ne me quitte pas, comme d'habitude, avec le temps, hors saison, je sais pas, La maladie d'amour, toutes ces choses-là, je l'ai fait, hein. Il y a moyen de sortir, mais bon, moi présent, non, j'ai envie de faire plein de choses. Je sais pas quoi.
Et le modèle de l'appli tel que tu l'as créé, il existait déjà pour d'autres artistes ou c'est vraiment...
Ah non, il n'y a aucun modèle quand même. Okay. Aucun modèle. Et qui est d'ailleurs à ne pas conseiller d'une manière chef d'entreprise et de manière industrielle parce que c'est pas quelque chose qui te rapporte vraiment. Ça coûte beaucoup de sous. Et mon problème, c'est que je pensais que j'allais faire 3-4 albums par an. Malheureusement, j'en ai fait 40. Donc, j'ai explosé des budgets et ma comptable me dit, mais ça sert à quoi, la chanson? Je lui dis, bah, juste pour les quelques milliers d'abonnés, puis pour mon plaisir, parce que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, il y en a 90. Je pense que je vais m'arrêter à 130. Il y en a, 10 en mix, là, il y en a 10 en fabrication, 10 qui n'ont pas été faits pour l'anthologie, donc on aura fini les 60 albums de l'anthologie. Ensuite... ouais, mais en fait, tu peux très bien ne jamais t'arrêter, tu vois. Mais bon, j'ai tellement fait de reprises, et c'est tellement incroyable, quoi, de pouvoir... D'ailleurs, on pourrait faire une émission avec uniquement les reprises que j'ai chantées, moi. dis donc, on a perdu un peu d'auditeurs là. T'es sûr pour la pub là?
Ouais, ça pourrait leur plaire.
Non, mais bon, c'est beaucoup de chansons. Je sais pas ce que je ferai. Je pense que je vais faire de la peinture et je pense que je vais lire beaucoup et je vais m'occuper de mes poules. Voilà. Ça peut paraître con, mais je trouve que c'est des choses comme ça. Ça me, c'est des choses auxquelles j'aspire plus aujourd'hui avec la littérature peut-être, la peinture et beaucoup de livres que j'ai en retard qu'il faut que je lise et là. Même que je relise.
Bah merci en tout cas beaucoup.
Bah merci à vous, hein. C'est sympa de pouvoir parler.
Sympa,
faut pas m'inviter faut pas me faire une émission parce que sinon je. C'est-à-dire que.
J'ai bien ri.
La pub, on va pas pouvoir. La pub, ça va être compliqué.
On va te couper la parole pour te faire un grand tunnel de.
La pub et la musique non plus, ouais. Vous voulez des anecdotes? Mais vous allez en avoir.
Nostalgie. Nostalgie.